Philippe. Donc, le thème de mon message ce matin, ce sera « La vraie foi qui sauve conduit à faire la volonté de Dieu ». Donc, on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 27. Donc, c'est Jésus qui parle. « Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. On ira tous au paradis. Vous connaissez sans doute cette célèbre chanson de Michel Polnareff. Or, nous avons, à travers le texte que je viens de lire, un démenti cinglant, glaçant et solennel de cette affirmation péremptoire du chanteur. Eh bien non, à en croire Jésus, on n'ira pas tous au paradis, n'en déplaise à Michel Polnareff. Il nous est dit que les premiers auditeurs de ce discours de Jésus furent impressionnés, frappés, stupéfaits. Et peut-être que vous aussi, tout comme moi, vous avez été stupéfaits à la lecture de ce discours de Jésus. Peut-être aussi le serez-vous encore plus à l'écoute du message difficile que je vais devoir vous délivrer. Mais moi qui vais vous partager la prédication de ce matin, je suis un pécheur, sauvé par grâce, qui ne mérite nullement d'aller au paradis. Et je tiens d'abord à préciser que moi qui prêche aujourd'hui, je ne suis pas meilleur que quiconque, et je ne suis pas là pour juger ni pour condamner qui que ce soit. Tous les pires péchés, j'ai certainement dû les commettre, ne serait-ce même qu'en penser. Ce que je vais prêcher ce matin, je le prêche donc pour moi premièrement. C'est pourquoi dans mon message, je ne dirai pas « vous », mais je dirai « nous », afin de m'inclure moi-même dans ce message difficile, et difficile pour moi premièrement. L'évangile de Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament, seconde partie de la Bible. Celui qui est considéré comme son auteur, Matthieu Lévi, était l'un des 12 apôtres de Jésus, c'est-à-dire l'un de ses plus proches disciples, au premier siècle de notre ère. Ici, nous sommes au début du ministère de Jésus et à la fin de son fameux sermon sur la montagne, rapporté dans les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Le texte que nous abordons aujourd'hui est la conclusion de ce fameux discours de Jésus, nous indiquant comment nous comporter avec Dieu et avec notre prochain. Dans le contexte immédiat, Jésus s'adresse à de grandes foules, mais surtout à ses disciples, s'approchant de lui, sur une montagne près de Capernaüm, en Israël, vers l'an 30 après Jésus-Christ. Dans ce discours, il est question de l'entrée dans le royaume de Dieu en trois étapes, qui constituent trois parties que je suivrai rigoureusement. Au début de chacune de ces trois parties, Jésus nous donne un impératif, nous mettant face à un choix. Premier impératif, des versets 13 à 14, entrez. Entrez par la porte étroite. Il s'agit ici de se convertir en choisissant la bonne porte ou le bon chemin. Deuxième impératif, des versets 15 à 20, gardez-vous. Gardez-vous des faux prophètes. Il s'agit ici d'embrasser la saine doctrine. Troisième impératif, des versets 21 à 27, « Faites, faites la volonté du Père ». Il s'agit ici de mettre en pratique la sainte doctrine, ce qui s'avérera être un choix radical. Via ces trois avertissements, Jésus va crescendo nous parler en quelque sorte de trois épreuves, trois tests, trois choix auxquels nous allons être confrontés pour valider notre entrée dans le royaume des cieux. D'abord, le choix du bon chemin. Ensuite, le choix de la bonne doctrine sans mélange. Enfin, troisième et dernière épreuve, la mise en pratique des paroles de Jésus. Ce sont là les trois étapes d'une authentique foi chrétienne, c'est-à-dire d'une foi chrétienne qui conduit au salut et non à la perdition. Dans notre première partie, des versets 13 à 14, Jésus place tout d'abord chaque homme devant une alternative qui ne souffre pas de troisième voie. Il n'y a que deux voies possibles pour l'humanité, soit la voie étroite, soit la voie large. En d'autres termes, soit la conversion à Christ qui mène à la vie, soit le refus de Christ qui mène à la perdition. Alors qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la perdition? Pour parler clairement, il s'agit respectivement du paradis éternel et de l'enfer éternel. Car je dois vous le dire, l'enjeu de ce texte, c'est le salut ou la perte de notre âme. C'est notre éternité avec Dieu ou notre éternité sans Dieu. Ces deux voies ne sont donc pas sans conséquences. Et Jésus nous conseille, nous commande même très clairement, d'entrer par la porte étroite. Alors, quelle est cette porte étroite? Cette porte étroite n'est autre que Jésus lui-même, car il a dit ailleurs dans l'Évangile qu'il est la porte et que celui qui entrera par lui sera sauvé. Jésus a dit également de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. » Autrement dit, tous les chemins ne mènent pas au paradis, mais seulement Jésus mène au paradis. Lui qui a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés et pardonnés de tous nos péchés, comme nous l'a rappelé Anne-Marie ce matin à travers ses différentes lectures, notamment la lecture de Romains 3, qui établit clairement que tous nous avons péché et que tous nous pouvons être sauvés par la foi, par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous sur la croix pour que nous soyons pardonnés. Mais pourrait-on se demander pourquoi est-elle étroite cette porte? Parce qu'elle implique qu'en suivant Jésus, nous suivons en même temps un chemin étroit, resserré, difficile, contrairement au chemin large, qui lui est un chemin facile, aisé, celui qu'emprunte hélas la majorité de l'humanité, à en croire Jésus lui-même. Ce chemin large, écrit le théologien John Stott, c'est la voie de toutes les opinions possibles, du laxisme éthique, de la tolérance et de la permissivité, sans garde-fou ni limite pour la pensée et le comportement. Les voyageurs qui y cheminent n'ont pas besoin de se séparer de quoi que ce soit, pas même de leur péché, ni de leur propre justice, ni de leur fierté. À l'inverse, écrit encore John Stott, l'entrée du chemin difficile est étroite, difficile à trouver, facile à manquer. Il ne peut pas y avoir de pèlerins neutres, mais seulement des hommes et des femmes qui font des choix que d'aucuns qualifieront d'extrémistes ou de fanatiques. Fin de citation. Le chemin étroit a donc des limites bien marquées, alors que le chemin large n'a aucune limite, aucun interdit, ce qui explique aisément pourquoi il a un tel succès auprès de tant de personnes. Par parenthèse, le satanisme n'a d'ailleurs qu'une seule et unique doctrine. Fais tout ce que tu veux et jouis sans entrave. Mais il y a un prix à payer pour cela, la perdition éternelle que Jésus qualifiera sévèrement de feu éternel dans lequel on est jeté et d'exclusion loin de lui et loin du royaume des cieux. Jésus départage très clairement l'humanité en deux groupes, les nombreux et les peu nombreux. Les authentiques chrétiens sont donc, à n'en pas douter, un mouvement minoritaire. Jésus nous apprend donc par là même une terrible nouvelle, c'est que notre existence terrestre est parsemée de pièges menant le plus grand nombre à la perdition éternelle. Alors comment éviter ces multiples pièges? Ce sera l'objet de la seconde partie du discours de Jésus, des versets 15 à 20, dans lequel notre Seigneur et Sauveur nous exhorte à nous garder des faux prophètes. Littéralement dans le grec, pseudo-prophète. Pseudos en grec signifie mensonge. Donc on pourrait traduire prophète mensonger ou prophète de mensonge. Un prophète, dans une perspective biblique, c'est un porte-parole. Il peut s'agir soit d'un vrai prophète, porteur de la parole de Dieu, donc porteur de la vérité, soit d'un faux prophète, porteur d'une parole humaine s'opposant à la parole de Dieu, donc porteur du mensonge. Là encore, Jésus est très tranché et tranchant, en stigmatisant de manière très nette les faux prophètes. Alors comment nous garder des faux prophètes? Jésus nous répond à deux reprises que c'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Et le mot « fruit » revient 7 fois dans sa bouche. Mais de quel fruit ici s'agit-il exactement ? S'agit-il du comportement de ces personnes ou bien plutôt de leurs enseignements ? Il peut s'agir sans nul doute des deux, mais un prophète, par définition, parle plus qu'il n'agit. Le contexte pointe plutôt ici vers des enseignements non conformes à la parole de Dieu. C'était en tout cas l'avis de Jean Calvin et de John Stott. Ce dernier écrit « Mettre ses disciples en garde contre les faux prophètes suppose qu'il existe une norme objective de vérité qui permet de reconnaître la falsification opérée par les faux prophètes. » Fin de citation. Vous l'aurez compris, cette norme est la Bible, la parole de Dieu. Aussi vrai que pour distinguer un faux billet d'un vrai billet, il faut d'abord connaître le vrai billet. Pour illustrer son propos, Jésus utilise une double métaphore, animale puis végétale. Ces faux prophètes sont tour à tour comparés à des loups ravisseurs, puis à des arbres mauvais ou malades, suivant les traductions. Littéralement, dans le grec, à des arbres pourris. Plus subtilement, en précisant que ces loups ont l'apparence de brebis, puis en évoquant l'impossibilité matérielle de cueillir des raisins sur des buissons d'épines et des figues sur des chardons, Jésus semble faire ici allusion à une tentative de mélange, à un syncrétisme entre le bien et le mal en quelque sorte. Pour reprendre les images employées par Jésus, on tente de recueillir quelque chose de bien, les raisins et les figues, sur quelque chose de mal, les buissons d'épines et les chardons. Cela n'est pas sans nous rappeler les épines et les chardons du début de la Genèse, conséquence du péché d'Adam et Ève. Ma lecture de la Bible et mon expérience personnelle m'ont appris qu'avec Dieu, mieux vaut ne pas faire de compromis, comme cela a été d'ailleurs chanté ce matin, ni de mélange. Personnellement, je trouve qu'il y a un grand danger à bricoler la parole de Dieu à son aise, et je préfère croire, quitte à passer pour stupide, que Dieu a bien voulu dire ce qu'il a dit dans sa parole tel qu'il l'a dit, plutôt que de prendre le risque de lui faire dire quelque chose qu'il n'a jamais dit. J'aimerais vous dire que nous sommes tous influençables, soit par Dieu, soit par nous-mêmes, soit par les autres. Si nous attendons des autres plutôt que de la parole de Dieu qu'ils confortent ou infirment notre propre pensée, nous prenons un risque énorme. Sachons bien qu'au jour du jugement, les personnes qui peuvent, à leur insu, nous avoir induits en erreur ne seront pas là pour nous défendre, mais nous serons tout seuls devant Dieu. Et nous ne serons pas jugés d'après leurs interprétations de la parole de Dieu ou notre propre interprétation de la parole de Dieu, mais nous serons jugés d'après la parole de Dieu elle-même. Luther disait « Restez attachés à la parole de Dieu, car vous serez capables de reconnaître le juge qui a raison. » Et Calvin, pour sa part, disait « Il faut éprouver toutes les doctrines à la règle de la parole de Dieu. » Mais, dans ce qui va suivre, Jésus va nous soumettre à un nouveau test qui n'est plus celui de la bonne ou de la mauvaise doctrine, mais celui de la mise en pratique ou non mise en pratique de la parole de Dieu, sur laquelle il va mettre l'accent comme critère d'évaluation de l'authentique foi chrétienne. Autrement dit, quand bien même professerait-on la doctrine la plus fidèle à la Bible, si l'on ne met pas en pratique ce que l'on a compris de la Bible, on est tout aussi perdu que celui qui refuse explicitement Christ dans sa vie ou que celui qui embrasse des enseignements antibibliques. Voilà ce que notre Seigneur va nous dire en substance dans notre troisième et dernière partie, la plus stupéfiante. Nous avons là, dans cette troisième partie, des versets 21 à 27, à la fois un avertissement et une prophétie de la part de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, qui vient de dénoncer les faux prophètes, est le vrai prophète par excellence, puisqu'il est Dieu lui-même. Et qui, mieux que Dieu, peut parler de la part de Dieu ? Le mot « Seigneur » appliqué à Jésus revient 4 fois. Il est mis par Jésus dans la bouche de gens qui se disent chrétiens. Ce que Jésus dénonce ici, ce n'est pas tant que nous mettions notre foi en lui comme notre Seigneur, mais une possible déconnexion entre ce que nous disons d'un côté et ce que nous faisons d'un autre côté. Nous savons tous qu'il n'y a pas de vraie foi sans repentance. Or, la repentance passe non seulement par un changement de mentalité, mais aussi par un changement de comportement. Ce que nous faisons ne peut être déconnecté de ce que nous croyons. C'est la fameuse dialectique de la foi et des œuvres, telle que nous l'enseigne l'épître de Jacques, avec laquelle Luther lui-même a eu maille à partir. Jésus nous parle ici de notre destinée ultime, éternelle, et par ses propos, nous comprenons que les cieux sont un royaume, qui est celui de Dieu le Père. Autrement dit, pas de paradis sans roi à sa tête. Et ce roi, c'est Dieu. Jésus nous parle également d'un jour particulier, ce jour-là. Qu'est-ce que ce jour-là du verset 22 qui semble arriver sans transition ? En fait, il fait référence au fameux jour du jugement dernier, jour de l'entrée dans le royaume des cieux ou jour de l'exclusion hors de ce royaume. Les exclus de ce royaume, ceux à qui Jésus dit de s'éloigner de lui, sont étonnés et semblent protester de leur bonne foi. Pourquoi sont-ils étonnés ? Parce que, lorsqu'ils vivaient encore sur terre, ils étaient sûrs d'être sauvés. Ils avaient l'assurance d'être en route pour le ciel et d'aller au ciel. Et voilà qu'ils sont rejetés en enfer, coupés et jetés au feu. Jésus leur demande de s'écarter de lui pour toujours. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas entrés par la bonne porte et n'ont pas pris le bon chemin. Ils se sont faussement rassurés eux-mêmes, en prophétisant, en chassant des démons, etc. Il est à noter que l'expression « en ton nom » revient 3 fois. Autrement dit, de manière répétitive, au nom de Jésus, ils ont pu prophétiser, ils ont pu chasser des démons et faire beaucoup de miracles au nom de Jésus. D'où leur étonnement, leur sidération de se voir refuser l'entrée du paradis. Ils ont hélas confondu les dons de l'esprit avec le fruit de l'esprit. La question « n'avons-nous pas dit ou fait ceci ou cela » revient 3 fois dans leur bouche. Parce qu'ils se sont confiés en des paroles ou en des œuvres qui en mettent plein la vue, mais pas en des œuvres conformes à la volonté du Père. Ils ont vu Dieu à l'œuvre dans leur vie, ils ont vu Dieu dans sa grâce commune les utiliser, oui, mais aucun miracle, si grand soit-il, et même fait au nom de Dieu, ne peut sauver celui qui en est le vecteur. Ils ont connu des œuvres miraculeuses de Jésus, oui, mais ils n'ont au final jamais été connus de l'auteur de ces œuvres. Autrement dit, ils n'ont jamais eu de relation intime avec Jésus, et c'est peut-être là le plus terrible. Ils ont fait des miracles, certes, mais ils n'ont pas pratiqué les commandements moraux de Jésus. Tout en faisant ces miracles-là, ils vivaient dans le péché, dans une fausse sécurité et dans une fausse assurance de leur salut. Non pas que Dieu les ait trompés par ces miracles, mais eux-mêmes ont trompé leur propre cœur en se faisant croire que Dieu fermait les yeux sur leur vie de péché, voire même l'approuvait. Plus terrible encore, à mon sens, est le fait que Jésus dit que beaucoup lui diront cela et pas juste quelques exceptions. Pour parler franchement et appeler un chat, ce que Jésus prophétise ici, c'est que beaucoup de ceux qui croyaient aller au paradis iront finalement en enfer. On retrouve encore l'opposition entre les nombreux et les peu nombreux des versets 13 et 14. Permettez-moi d'être encore plus franc. Ce que dit Jésus ici, c'est que beaucoup de ceux qui se croient et qui se disent chrétiens ne le sont pas en réalité. Croyez-le bien, je suis peiné à la lecture de ce texte, mais comme le disait Luther, je suis lié par la parole de Dieu et par amour pour Dieu et pour mon prochain. Je ne peux pas amoindrir l'électrochoc que ce discours de Jésus devrait produire en chacun de nous lorsque nous vivons une double vie, une vie chrétienne à l'Église et une vie non chrétienne dans le monde, lorsque nous vivons volontairement dans le péché sans jamais nous en repentir, lorsque nous contestons avec tel ou tel passage de la Bible parce que nous n'avons pas envie de nous y conformer. Dès lors, Jésus, qui avait donné sa vie pour sauver ces personnes, devient leur juge et se voit contraint de leur fermer la porte du ciel, de leur refuser l'entrée du royaume des cieux. Jésus, qui est Dieu le Fils, n'acceptera donc pas nécessairement au paradis tous ceux qui lui disent « Seigneur », mais seulement ceux qui écoutent et mettent en pratique ses paroles. Dieu est amour, c'est un fait. Mais parce qu'il est amour, il est aussi justice. Dieu n'est pas un Dieu bisounours, ni un papa gâteau. Mais Dieu est un Dieu qui nous aime d'un amour infini, comme nous l'avons chanté ce matin, au point d'avoir donné sa vie pour nous sur la croix, pour que nous soyons sauvés. Mais ce Dieu-là sera aussi un jour mon juge et le vôtre. On peut être surpris, voire choqué, d'imaginer Jésus en tant que juge repoussant des gens en enfer. Mais c'est oublier que celui qui a le plus parlé de l'enfer dans la Bible n'est autre que Jésus lui-même. Et il n'a jamais cessé d'en parler jusque dans le dernier chapitre de la Bible. Et ce Jésus-là, le Jésus biblique, me dit qu'il ne me suffit pas de l'appeler Seigneur pour être sûr que je suis connu de lui et que j'entrerai au royaume des cieux, mais qu'il me faut plutôt entendre et mettre en pratique ses paroles, ce qui constitue, d'après ce texte, la preuve ultime qu'on est connu de Jésus. Qu'est-ce que Jésus reproche aux justes, aux nombreuses personnes qu'il exclut de son paradis ? Il leur reproche tout simplement d'avoir vécu dans le mal sur terre. Si l'on traduit littéralement du mot grec, anomia, il leur reproche d'avoir vécu dans la non-loi, ou dans l'absence de loi, dans la transgression de la loi. Bien souvent, nous aimons à mettre en avant la dimension existentielle du péché, d'après son étymologie en hébreu, manquer le but, manquer la cible. Et cela est vrai en soi. Mais nous tendons à oublier le péché dans sa dimension morale, qui n'est autre, selon la définition même de la Bible, que la transgression de la loi de Dieu. Et où trouve-t-on cette loi de Dieu ? Dans la parole de Dieu. Donc, dans la logique du discours de Jésus, ne pas mettre en pratique la parole de Dieu équivaut, qu'on le veuille ou non, à faire le mal, tout simplement. Et donc, cela revient à faire l'inverse de sa volonté et de sa loi de justice et d'amour édictée dans sa parole. John Stott écrit à ce sujet : Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas professé leur foi que ces personnes sont rejetées, mais parce qu'elles ne se sont jamais vraiment soumises au Seigneur en obéissant à la volonté du Père Céleste. » Fin de citation. Ailleurs, dans l'Évangile, Jésus interroge ses disciples. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pour nous éviter cet écueil tragique, Jésus nous invite à construire notre maison, non pas sur le sable, mais sur le rocher. Or, le rocher, c'est l'écoute plus la mise en pratique des paroles de Jésus. Le rocher, c'est une addition. Tandis que le sable, c'est l'écoute moins la mise en pratique des paroles de Jésus. Le sable, c'est une soustraction. Se soustraire à la mise en pratique des paroles de Jésus, c'est se soustraire à la volonté de Dieu le Père. Et se soustraire à la volonté de Dieu le Père, c'est se soustraire au royaume des cieux. C'est là une boucle imparfaite et imparable à laquelle on ne peut pas justement se soustraire impunément. Et dans cette logique circulaire purement hébraïque, comme dans le livre des Proverbes, Jésus associe la prudence au bien et la folie au mal. De fait, existentiellement, le péché produit l'écroulement et la ruine, et une grande ruine. Un point important doit encore être soulevé, c'est que l'on serait choqué si l'on faisait un tableau comparatif des deux catégories de gens auxquels Jésus s'adresse ici, les sauvés comme les non-sauvés, qui lui disent « Seigneur, Seigneur » et lui diront encore « Seigneur, Seigneur » au jour du jugement. En effet, on serait choqué de constater que ces deux types de personnes ont plusieurs points communs et une seule différence. Oui, étonnant que cela puisse paraître, aussi étonnant pardon, que cela puisse paraître, il y a quatre points communs entre ces deux catégories de personnes dont certaines iront au paradis et les autres en enfer. Les deux professent régulièrement la seigneurie de Jésus. Ils appellent Jésus Seigneur. Ils disent donc être chrétiens. Les deux entendent les paroles de Jésus. Autrement dit, ils acceptent la parole en théorie et au moins verbalement. Les deux parlent et agissent au nom du Seigneur Jésus. Les deux traversent des épreuves toujours plus violentes, symbolisées par la pluie, les torrents, les vents. Mais quelle est alors leur unique différence fondamentale? Cette unique différence, c'est que les uns font la volonté du Père en mettant en pratique les paroles de Jésus, et les autres ne font pas la volonté du Père en ne mettant pas en pratique les paroles de Jésus. C'est aussi simple que cela. Ces derniers sont par conséquent rejetés en enfer par Jésus. Mais alors, pourrions-nous répliquer, est-on sauvé par les œuvres à ce compte-là, et pas par la foi seule? Y a-t-il contradiction entre ce texte et d'autres textes de la Bible? Non, il n'y a aucune contradiction. Aucune œuvre ne nous sauve, comme cela nous a été rappelé ce matin. Seule la foi en Jésus nous sauve. Mais enfin, pourrions-nous encore nous demander, peut-on alors perdre son salut? Certains chrétiens croient qu'on peut perdre son salut, d'autres chrétiens croient qu'on ne peut pas perdre son salut. Je n'entrerai pas dans ce débat-là, mais je dirai simplement que si l'on est vraiment sauvé, nos œuvres doivent le prouver et l'attester. Calvin lui-même mesurait la subtilité de tout cela lorsqu'il a dit « On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on n'est pas non plus sauvé sans les œuvres. » Fin de citation. Ce n'est pas que nos œuvres ajoutent quoi que ce soit à l'œuvre rédemptrice de Christ ou à notre salut, mais nos œuvres attestent d'une foi authentique. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, non. Mais si nous sommes sauvés, alors nous produirons des œuvres conformes à la parole de Dieu. Nos œuvres ne seront pas la cause de notre salut, mais sa conséquence logique et nécessaire. Nous ferons donc des œuvres non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Cela veut-il dire alors qu'un chrétien ne pêche plus? Non, il peut arriver à un chrétien de pécher, mais il n'est plus censé pratiquer le péché. Autrement dit, le péché ne doit pas être une habitude dans sa vie, mais un accident. On trouve cette tension dans la première épître de Jean qui nous dit à la fois de confesser nos péchés et de ne plus pratiquer de péché. L'idée maîtresse de ce texte, tout le propos de Jésus, c'est de nous dire que la vraie foi qui sauve conduit à faire la volonté de Dieu le Père, c'est-à-dire à mettre en pratique les paroles de Jésus. Les paroles et pas juste une parole ou une autre, le pluriel ici est important et n'est pas anodin. Il ne s'agit pas de mettre en pratique seulement les paroles qui m'arrangent. Ne privilégions donc pas certains commandements par rapport à d'autres, mais ayons du respect pour chaque commandement. Ne trions pas dans la parole de Dieu entre ce qui nous arrange et ce qui nous dérange. Prenons-la d'un seul bloc ou ne la prenons pas. Christophe Payat, dans son livre sur l'évangile de Matthieu, écrit ceci. Le choix est clair, radical. Un choix sans ambiguïté s'impose. Choix guidé non pas par la facilité ou par la recherche du bien-être, mais par la parole de Jésus. La voie montrée par le sermon sur la montagne est étroite et difficile, plus encore qu'on ne l'imagine. Le service chrétien n'est pas un jeu. Et John Stott d'ajouter « La destinée éternelle des hommes dépend d'une obéissance sans restriction à l'enseignement du Christ, contraste entre la bonne et la mauvaise manière de répondre à l'enseignement du Christ. Ce message s'adresse à tous ceux qui se prétendent chrétiens, donc là je cite John Stott, ce n'est pas moi qui parle, qui ont fait pour eux-mêmes profession de foi en Jésus-Christ, par une conversion personnelle, par le baptême public, et qui se réfèrent à Jésus comme leur Seigneur, à tous ceux qui exercent toutes sortes de ministères en son nom. Aujourd'hui encore, le Seigneur requiert que leur authenticité se manifeste par les bonnes œuvres et l'obéissance à sa volonté. Seule la foi qui se traduit en œuvre bonne sauve. Jésus invite ses disciples à ne pas se contenter d'être des auditeurs de la parole, il les veut acteurs de cette parole. Fin de citation. Nous pourrions nous croire automatiquement et nécessairement sauvés sous prétexte que nous avons confessé à maintes reprises la Seigneurie de Jésus tout en vivant de manière incohérente avec la foi biblique. Or, nous avons ici un avertissement de Jésus pour nous détromper. Croire en Jésus n'est pas un permis pour pécher. C'est une invitation à la sanctification, à la progression dans la sainteté qui a été aussi évoquée dans les chants ce matin. Et pas juste à une confession purement verbale qui ne change rien concrètement à notre vie. Jésus ici remet les pendules à l'heure et ne nous laisse pas nous bercer d'illusions en croyant à une fausse grâce changée en dissolution. Croire que nous pouvons être sauvés tout en vivant allègrement dans le péché sans nous en repentir est une illusion mortelle, illusion à laquelle Jésus vient nous arracher par cet avertissement, certes sévère, mais néanmoins salvateur. Ces paroles de Jésus ne peuvent pas ne pas nous déranger, et ce qui que nous soyons. Et ces paroles ont un parfum d'actualité. De fait, à notre époque, force est de constater que chacun décide pour lui-même de ce qui est bien ou mal. Il n'y a plus de critères absolus du bien et du mal. En l'absence de référence à un Dieu transcendant qui fixe les règles, chacun fait ce qui lui semble bon à lui, et non ce qui est bon aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons être tentés, attirés, amorcés par les sirènes médiatiques du relativisme moral qui appellent le bien mal et le mal bien, à travers notamment la promotion et la glorification de pratiques qui ont le vent en poupe, telles que l'IVG, la PMA, la GPA, l'euthanasie, ainsi que l'indifférence coupable à l'égard de ces maux profonds que sont la pédophilie et l'antisémitisme, pour ne citer que ces quelques exemples d'actualité. Et même en tant que chrétiens, nous pouvons aisément nous laisser influencer et impacter davantage par notre culture, par notre éducation, ou tout simplement par les valeurs qui nous plaisent et qui nous arrangent, plutôt que par les valeurs de la parole de Dieu. Ainsi, dans notre pratique quotidienne de la foi, cela s'en ressentira forcément. Alors la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est qu'il n'est pas trop tard pour nous repentir, si nous nous rendons compte que nous avons fait fausse route jusqu'ici. Bonne nouvelle, c'est le sens même du mot évangile en grec. Et pour tous ceux et toutes celles d'entre nous qui nous disons chrétiens et chrétiennes, reste deux choix possibles entre le vrai christianisme et le faux christianisme. La possibilité nous est encore offerte de prendre chaque parole de Dieu, d'être désireux de la mettre en pratique, d'aligner notre vie sur ce rocher que constitue la parole de Dieu. Pour conclure, à la lumière de ce texte si impressionnant, pour ne pas dire terrifiant, trois questionnements surgissent pour nous ce matin. Premier questionnement, sommes-nous entrés par la porte étroite qui est Jésus lui-même ? Avons-nous réalisé que tous les chemins ne mènent pas à Dieu et au paradis, mais que Jésus-Christ est le seul et unique chemin qui mène à Dieu et au paradis ? Avons-nous demandé pardon à Dieu pour tous nos péchés ? Et avons-nous accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur personnel ? Deuxième questionnement, est-ce que nous nous protégeons au quotidien des paroles de mensonges, y compris des paroles qui viennent prétendument de Dieu ? Et à cette fin, lisons-nous notre Bible régulièrement et la prenons-nous au sérieux ? Prenons-nous la peine de vérifier si ce que nous entendons des uns ou des autres est conforme à la Bible ? Enfin, troisième et dernier questionnement, mettons-nous en pratique ce que nous dit la parole de Dieu, y compris les choses qui nous dérangent et viennent, entre guillemets, perturber notre vie et nous remettre en question dans nos certitudes. En d'autres termes, avons-nous à cœur de faire la volonté du Père ou bien préférons-nous faire notre propre volonté, quitte à être exclus du royaume des cieux et rejeté par Jésus en enfer au jour du jugement dernier ? Sincèrement, je ne nous le souhaite pas et je nous encourage ce matin à saisir la main tendue de Jésus et à prendre au sérieux notre engagement à le suivre, si nous avons pris cet engagement, comme cela a été soulevé dans le dernier chant, avant que je prêche. Je vous remercie pour votre écoute, et je remercie Eric, qui m'a fait la confiance de me laisser prêcher aujourd'hui, et je remercie tous ceux et toutes celles qui...